Bonjour à tous. Nathalie Arthaud, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation, en tout cas.
Avec plaisir.
Le principe de notre émission politique est assez simple. Vous avez 12 minutes, 12 minutes pour répondre aux questions que se pose le monde agricole aujourd'hui, 12 minutes pour exposer vos propositions. Alors la première question est une question d'actualité. La PAC va être réformée en 2013. Alors selon vous, est-ce qu'il faut continuer à promouvoir une politique agricole commune à l'échelle européenne? Et si oui, avec quelles mesures et suivant quel budget?
Je crois que dès son origine, la PAC a été une politique finalement très, très inégalitaire. Très inégalitaire. Alors son objectif, c'était bien sûr de moderniser l'agriculture française. On a vu d'ailleurs que ça a donné lieu à des dizaines de milliers finalement de disparitions de petites exploitations. Ça a sans doute contribué aussi donc à la désertification hein, du territoire. Et aujourd'hui encore, oui, la PAC est une politique très, très inégalitaire puisque c'est surtout les plus gros exploitants qui récupèrent finalement le pactole, n'est-ce pas, y compris des gros industriels, hein, Doux, Lactalis, pour les petits exploitants qui ont des petites exploitations, eh bien finalement, il ne reste pas grand-chose. Donc moi, je n'ai rien contre une politique agricole commune à l'échelle européenne, mais je pense qu'elle devrait avoir l'objectif de garantir un niveau de vie justement à tous ces petits exploitants, de leur permettre au minimum tout de même de se verser un salaire digne, hein, ce qui n'est pas le cas de bien de petits agriculteurs aujourd'hui. Ça devrait leur permettre y compris d'investir dans du matériel, de mettre leur exploitation aux normes. Un niveau de vie qui devrait aussi leur garantir une vraie retraite. Hein, une fois qu'on a travaillé toute sa vie, je crois qu'on a droit effectivement à une vraie retraite. Donc voilà, une politique qui garantisse, qui préserve et qui donne finalement le salaire qui permet tout de même aux producteurs hein, de vivre dignement, lui et sa famille. Je pense que pour obtenir cela de la PAC, eh bien, il faudrait prendre l'argent où il se trouve et que cela nécessiterait sans doute de faire la transparence et la lumière sur toute cette filière agricole où on ne peut que constater que ce sont les producteurs, les travailleurs de la terre, les agriculteurs qui sont les plus maltraités. Où on voit qu'en réalité, ceux qui tirent leur épingle du jeu, eh bien, ce sont les gros transformateurs, les fournisseurs d'aliments pour bétail, par exemple, les gros semenciers, ce sont aussi la grande distribution, les centrales d'achat. Donc moi, je crois que tout cela, hein, qui effectivement, sans doute, profite du travail des agriculteurs, eh bien, on devrait aussi leur demander finalement, de mettre la main à la poche et d'alimenter la PAC, de faire en sorte, oui, de verser au budget de la PAC.
Ah oui, alors là, belle proposition en tout cas. Vous êtes originaire de la Drôme, donc les territoires vous connaissez, et vous connaissez justement la France pour la diversité de ces territoires. Donc comment, selon vous, maintenir un développement territorial équilibré alors qu'on sait, la majorité d'entre nous vit en ville et que certaines campagnes justement se désertifient?
Je crois qu'il y aurait de quoi faire, effectivement, d'abord parce qu'il y a des petits agriculteurs, des paysans. Hein, moi, effectivement, je viens de la Drôme des Collines, donc il y a beaucoup de petits agriculteurs qui vivotent, finalement, et qui souvent vivotent sur des terres ingrates, vraiment ingrates, et qui ne peuvent pas vivre de leur exploitation et qui voudraient rester. Eh bien, je crois qu'il faudrait les aider à rester. Pourquoi pas salariés, ces exploitants agricoles, les salariés, eh bien, entretenir les bois, entretenir les chemins, entretenir les forêts, enfin bon, une présence. On sait qu'il y a besoin d'une présence humaine hein, dans toutes ces zones rurales, que c'est important, que c'est vital même en réalité pour l'avenir de ces territoires. Donc c'est une chose qui pourrait être faite vis-à-vis effectivement du monde agricole. Et puis, bon, vous le savez, moi, je milite contre le départ des services publics des zones rurales. Parce que, bien sûr qu'il faut assurer un niveau de vie correct aux agriculteurs et aux petits exploitants, mais le niveau de vie, c'est aussi l'accès aux services publics. C'est aussi l'accès justement à la poste, à les écoles. Quand on voit que le gouvernement se vante d'avoir supprimé 80 000 emplois dans l'éducation nationale et que cela signifie la fermeture des écoles dans bien des petits villages, et donc la mort en réalité de ces villages. De la même façon, il s'est vanté aussi d'avoir fermé un tiers des bureaux de vote en l'espace de 5 ans. Moi, je crois que tout ça, ce sont des reculs. Tout ça, ce sont des reculs qu'il faut combattre. Il faut au contraire imposer que l'État reste présent. Et on pourrait d'ailleurs faire bien des choses. Moi, je vois effectivement qu'il y a beaucoup, heureusement, beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens qui s'engagent dans ces zones rurales, par exemple dans des associations d'aide à la personne, d'aide à domicile. Je connais dans ma famille des bénévoles de ces associations. Et heureusement qu'ils sont là, parce qu'effectivement, eh bien, les aides à domicile, la présence de personnes qui aident les anciens à rester aussi où ils vivent, c'est très, très, très précieux. Mais moi, je suis assez choquée de voir que justement ça, cela doit relever du bénévolat. Et je pense que c'est l'État qui devrait en réalité prendre en charge cela, financer, pourquoi pas, un service public, oui, d'aide à la personne. Donc voilà, je crois qu'il y a aussi de la responsabilité de l'État dans tout cela.
Des propositions très concrètes. Autre tradition française, le repas. Le repas est basé sur des produits alimentaires diversifiés, sains et de qualité. Comment, selon vous, là aussi, pérenniser cette alimentation qui est très liée au terroir et s'assurer qu'elle reste accessible à tous ?
Ah là, je pense que ça, c'est une question de salaire. Je pense, eh bien oui, parce que, bon, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui préfère manger du poulet en batterie à la place d'un poulet fermier ? Moi, je crois pas. Je crois que tout le monde souhaite manger sain, souhaite manger avec des saveurs, évidemment. Voilà, et ça, c'est une question de budget, en réalité. C'est vrai que vous prenez le SMIC. Aujourd'hui, des millions de travailleurs sont rémunérés au SMIC. Eh bien, quand on touche un SMIC, tout part, hein, dans le loyer, dans les charges, dans le carburant, dans les factures diverses et variées, les assurances. Bon, et il reste bien peu pour la nourriture. Et il suffit d'aller dans les supermarchés des quartiers populaires, de la région parisienne, mais je crois que c'est partout dans le pays, pour voir qu'y compris sont nombreux ceux qui doivent reposer des choses parce qu'ils n'ont pas de quoi payer. Donc c'est vraiment, vraiment une question de salaire, de niveau de vie. Et moi, je crois qu'à moins de 1700 euros, c'est difficile en fait de vivre et voilà, de vivre et de se nourrir correctement, non seulement pour le plaisir, mais aussi pour la santé. Donc c'est une question effectivement là de pouvoir d'achat. Et moi, je vous garantis que justement, je me bats pour ça. Une de mes revendications que je vais mettre en avant dans cette campagne, c'est d'imposer, qu'on arrive à imposer que les salaires augmentent au même rythme que les prix, au même rythme que les loyers, que le carburant, que toutes les taxes qui nous tombent dessus. C'est l'indexation des loyers, des salaires, des pensions de retraite et des revenus de transfert. C'est effectivement quelque chose vital, manger. Aujourd'hui, vous savez, ça devient un problème pour des millions de familles.
Très bien. Dernière question, et qui est importante là aussi pour tous les agriculteurs et les non-agriculteurs qui nous écoutent, c'est comment concilier sur les exploitations la rentabilité économique et la préservation des ressources naturelles sans aboutir à des normes qui sont plus draconiennes en France que dans d'autres pays et sans aboutir à une distorsion de concurrence justement avec ces autres pays.
Alors je dois vous dire que sur cette expression rentabilité économique, j'ai un peu des réticences parce que bon, dans les entreprises, on nous parle beaucoup de rentabilité économique. En réalité, c'est toujours du point de vue du patron, hein. C'est toujours du point de vue de l'actionnaire. Il faut toujours faire plus de rentabilité. En réalité, on se rend compte que la rentabilité, elle est là, mais qu'ils en veulent toujours plus, qu'ils n'ont pas de limite. Hein. Alors, une année, on fait 2 milliards de bénéfices, mais il en faut encore plus l'année d'après. 2 milliards, 5, 3 milliards. Vous savez, c'est pas un chiffre que j'invente, hein. C'est les bénéfices d'ArcelorMittal et de bien d'autres encore. Donc, cette rentabilité économique, il faut toujours se poser le problème de qui on parle, de qui parle. Moi, je suis, quand je parle de rentabilité économique en ce qui concerne le monde agricole, pour moi, la rentabilité, ça doit être la rentabilité pour celui qui travaille la terre, pour le producteur, pour l'agriculteur, la rentabilité pour lui et pour sa famille. Ce qu'il doit faire doit lui permettre de vivre. Voilà. Et si aujourd'hui la rentabilité économique est remise en cause, je crois que c'est parce que justement, c'est la loi du plus fort. dans ce secteur-là comme dans bien d'autres, et que certains imposent des marges indues, des marges iniques qu'il faut combattre. Et voilà, ils se servent au passage, beaucoup d'intermédiaires, beaucoup de gros transformateurs, de grands industriels et la grande distribution. Donc, une petite réserve sur ce terme. Maintenant, je ne crois pas que la préservation des ressources naturelles s'oppose aux intérêts des agriculteurs. Ça, je ne le crois pas. Je crois qu'au contraire, cela va de pair. C'est bien évident que si les ressources naturelles se tarissent, que s'il y a un problème d'eau, s'il y a un problème de pollution, c'est les agriculteurs les premiers qui vont être concernés. J'ai d'ailleurs suivi le procès qui a été gagné par cet agriculteur qui avait été empoisonné aux pesticides de la firme Monsanto. Ce qu'on voit, c'est que, y compris, ils sont, les travailleurs de la terre, justement, sont aux premières loges en ce qui concerne, justement, ces dangers-là, des pesticides et des sulfates, etc. Donc, je crois que là, en réalité, il devrait, justement, y avoir des intérêts communs, une politique et des mesures prises de concert. Et maintenant, je comprends bien le problème. C'est que le problème, eh bien, c'est la dure loi du profit. Voilà, de quelques-uns, c'est la dure loi d'une minorité qui s'impose aux autres et qui impose, y compris aux éleveurs en Bretagne, de faire du chiffre, de faire de l'abattage, quand bien même on sait les ravages que ça a avec les algues vertes. Mais je ne crois pas que ce soit les agriculteurs eux-mêmes voient cela comme le nec plus ultra en termes d'exploitation. Je crois que c'est vraiment un système où il y a effectivement une fuite en avant, mais qui est imposée, là encore, par les grands groupes, par cette loi du profit. Voilà, moi je milite, j'ai toujours dans cet espoir-là, eh bien qu'on pourrait, au contraire, organiser l'économie, la maîtriser, que tous les travailleurs, que tous les producteurs, qu'on soit ouvrier, qu'on soit paysan, pour moi, c'est un seul et même ensemble, eh bien qu'on puisse réussir à maîtriser cette économie, de façon à ce que, bien sûr, le travailleur soit respecté dans ses droits, dans son droit à l'existence, dans son droit à un salaire et à un revenu digne, mais qu'on puisse aussi réfléchir à l'impact que nous avons sur l'environnement, à comment préserver la nature. Mais je suis bien convaincue que pour faire tout ça, eh bien, il faudra en fait renverser ce système aveugle qui nous conduit effectivement à toujours plus de profits pour quelques-uns au détriment de la grande majorité.
Nathalie Arthaud, merci beaucoup. Bonne chance pour cette campagne. Et encore, merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous remercie.
À très bientôt.